C'est l'heure de penser donc avec Laurence Luret. Bonjour Laurence.
Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous.
Trump et la Corée, Poutine et la Syrie, et si la guerre froide recommençait? C'est la question que vous posez ce matin à votre invité, l'historien Pascal Blanchard.
Bonjour Pascal Blanchard.
Bonjour.
Trump a annoncé cette semaine à la Corée du Nord que la rencontre prévue le 12 juin prochain à Singapour entre les deux dirigeants n'aurait finalement pas lieu. C'est la guerre froide qui revient ou alors on va vers un conflit plus musclé, plus direct?
On est déjà dans la guerre froide. On est en plein dedans. Ça y est, le jeu de dupes commence. Alors à l'époque, il n'y avait pas les tweets dans les années 50, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas cette omniprésence des images et des déclarations. La moumoute des Eisenhower ne valait pas celle de Trump, mais il y avait déjà cette guerre entre la Corée et l'Amérique. C'était des slogans et des affiches, ça terminait en guerre, ça a failli être une guerre atomique. Si à l'époque Truman n'arrête pas MacArthur voulait bombarder Pékin pour calmer les Chinois dans leur soutien à la Corée du Nord. Et là, on est à un moment où on pensait à un moment qu'une solution allait se trouver, en même temps, on n'était pas trop dupes. Et là, ils viennent de dire non, ils ne se rencontreront pas. Tout est possible.
Alors justement, est-ce que, comme dans les années 50, nous voici sous la menace d'une guerre atomique entre les États-Unis et la Corée? Pour rappel, dans les années 50, il y a eu la guerre de Corée. Ça aussi, ça recommence, ça se répète.
Tout à fait. Il y a la guerre de Corée dont la paix n'a jamais été signée. Il y a un armistice, c'est-à-dire que l'Amérique, théoriquement, la Corée du Sud, la Corée du Nord sont toujours en guerre. Et je vous rappelle que les Chinois ont été particulièrement présents dans ce conflit puisque le fils de Mao va mourir dans ce conflit. 300 000 volontaires avaient été engagés sur le sol de la Corée pour protéger, en fin de compte, cet espace communiste de l'invasion américaine. Et on retrouve les mêmes enjeux avec cette fois-ci beaucoup plus d'intervenants qui ont la bombe atomique. Parce que pour l'instant, la Chine n'a pas encore, quelque part, ouvert le jeu, mais elle est maintenant détentrice de la bombe atomique. La Russie reste très très loin de ce jeu-là, mais la petite Corée du Nord, d'une certaine manière, a la capacité, au moins à quelques milliers de kilomètres de chez elle, à Guam et ailleurs, de rentrer dans le jeu. Donc le risque atomique est possible, comme je dirais, dernière arme possible de la Corée de réagir, et Trump est imprévisible. Rappelez-vous ce qu'ils cherchent à faire en ce moment, des micro-bombes atomiques pour pouvoir intervenir dans des micro-pays, pour des micro-conflits, comme il dit, pour arriver à faire maintenir l'ordre mondial de l'Amérique.
Alors, Pascal Blanchard, dans ce livre, Les années 50, et si la guerre froide recommençait, c'est son titre, que vous avez coécrit avec Pierre Aski et Farid Abdelwahab, vous mettez en miroir les événements des années 50 avec notre monde actuel, avec de très belles photos d'ailleurs. Alors comme par exemple celle d'Eisenhower en 1952 et celle de Trump en 2016. Pourquoi donc?
Parce que c'est le père illégitime et reconnu par Trump de son discours politique. Lui-même dans sa campagne le dit, les années Eisenhower vont venir. Alors nous pour nous les Français, Eisenhower c'est l'illustre inconnu. Il est entre Truman et Kennedy. Pourtant il reste 8 ans au pouvoir. C'est pas un politicien, c'est un militaire. On l'appelle à la dernière minute pour représenter le Parti républicain. Il a failli être le vice-président de Truman, donc démocrate. On va lui reprocher de plus jouer au golf que d'être à la Maison-Blanche. Il va être contre le droit des Noirs. Il va mettre et expulser les clandestins. 3,5 millions de clandestins mexicains seront expulsés sous les deux mandats d'Eisenhower. C'est l'homme de la guerre froide. C'est l'homme de l'anti, je vous rappelle, communiste avec McCarthy. Vous connaissez lui tous. C'est exactement le grand-père de Trump. Enfin, on a le sentiment d'avoir là celui qui a enfanté le Frankenstein contemporain. Et lui-même, dans sa campagne, Trump n'a pas arrêté de faire référence et tout le monde se demandait d'où venait cette idée curieuse du mur avec le Mexique. C'est ni plus ni moins qu'une idée d'Eisenhower. Donc en fait, quand on regarde ces années-là, on découvre que Trump, en fait, ne va pas chercher dans les années Reagan son modèle, pas dans les années Bush. Il va chercher dans cette grandiose Amérique chez Eisenhower et c'est cette grandeur-là qui va faire que l'électeur blanc américain va quelque part mettre en scène quand ils vont élire Trump. Et aujourd'hui, c'est cette grandeur-là qui est de retour.
Alors, d'un côté, un Trump va en guerre, la Corée, l'Iran. De l'autre, un Poutine expansionniste qui revient dans le jeu international comme un certain Khrouchtchev dans les années 50.
Que tout le monde a oublié, parce que Khrouchtchev, c'est le bon gars. Il arrive après Staline. C'est vrai qu'après Staline, généralement, tu peux pas être pire. Et là, d'un seul coup, Khrouchtchev, on a complètement oublié, c'est 56. Ah oui, c'est vrai, Khrouchtchev, 56, la Hongrie, c'est pas terrible. Ah mais oui, mais Khrouchtchev, c'est le mur de Berlin. C'est le gars qui est dans la détente, qui est tout sourire, qui est sympathique et qui, en même temps, va taper partout en Europe de l'Ouest, va taper partout dans le reste du monde, va être l'homme de l'affaire des missiles à Cuba, va être, quelque part, celui qui va s'opposer à l'Amérique. Et Poutine, pour lui, c'est cette grandeur et modernité des années Khrouchtchev qu'il essaye de retrouver. Et on trouve d'ailleurs des similitudes entre les deux personnages. Tout sourire, bon dans les médias, une forme de modernité après les années Staline, et en même temps derrière, y en a un, c'est la Hongrie, l'autre, c'est la Crimée, c'est l'interventionnisme partout avec la Syrie, et c'est surtout une volonté de faire que, d'une part, l'Union soviétique et d'autre part, la Russie redeviennent une grande nation.
Alors, on a fait les États-Unis, on a fait la Russie. Alors, autre résonance avec notre temps, Pascal Blanchard, les années 50 qui ont vu la naissance de l'Europe Aujourd'hui, elle semble plus fragilisée que jamais, montée des populistes de l'extrême droite, jusqu'en Italie même.
Tout à fait. On a complètement oublié, les années 50, c'est le retour du MSI en Italie. L'extrême droite, 5 ans après, revient. On a oublié le FPÖ qui est au pouvoir aujourd'hui en Autriche. Et c'est un parti qui va naître dans les années 50. Toute cette extrême droite retrouve une vigueur dans les années 50. Pourquoi ? C'est à la fois l'opposition aux immigrations non blanches en Europe, en Allemagne, en Autriche, c'est le retour d'une vieille droite conservatrice et néofasciste. En Italie, c'est le MSI. Et puis ce qu'on a tous oublié aussi, c'est Salazar au Portugal, Franco en Espagne. Et d'un coup, on se dit, ah oui, mais c'est vrai que tous ces réacs-là, c'est dans les années 50 qui reviennent. Et puis en France, les années Poujade, qui font trembler la République dans les années 56 à 58. Première élection de Jean-Marie Le Pen en 58 comme député poujadiste. C'est en fait le renouveau d'une extrême droite 10 ans après la Seconde Guerre mondiale qui reprend la main en Europe. Et aujourd'hui, cette Europe qui s'est construite dans ces mêmes années, où déjà l'Angleterre était en doute, dedans, dehors. Et ben aujourd'hui, 50 ans après, cette Europe-là, elle est en pleine fragilité. Elle se pose des questions sur son destin, comme dans les années 50.
Est-ce qu'on n'est pas justement maintenant à un basculement, puisque Trump est plutôt dans une sorte d'isolationnisme, en tout cas n'est plus le chef incontesté de la mondialisation?
Attendez la fin de la guerre froide pour dire ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs modèles qui s'opposent, avec la Chine qui est rentrée dans le jeu. Aujourd'hui, il y a 3 nations qui prétendent à un leadership monde. Personne ne sait comment se finit une guerre froide. Personne n'aurait pronostiqué en 49, quand les Russes découvrent la bombe atomique et font leur première explosion, que 50 ans plus tard, l'Union soviétique s'effondrait. Ça a duré 50 ans. On est peut-être parti pour 50 ans d'histoire. Personne ne peut l'écrire aujourd'hui. C'est l'intérêt du livre, c'est de poser des questions, que les gens soient d'accord ou pas d'accord d'ailleurs, de poser des questions, de dire comment cela va-t-il finir.
Merci Pascal Blanchard. Merci. Eh bien, grâce à vous, on a tout compris. Et puis pour les auditeurs curieux qui veulent en savoir plus, je renvoie à ce beau livre avec de superbes photos. Et bien sûr, pensez donc, c'est aussi en réécoute ou en podcast sur le site de France Inter, Pierre.
Absolument. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle le titre de ce livre, « Les années 50 et si la guerre froide recommençait » par Pascal Blanchard, Pierre Aski et Farid Abdel Wahab. C'est publié aux éditions de La Martinière, 6h25.